Premièrement, je vais prendre l'égalité suivante. 10 moins 3 égale à 11. Bien sûr, cette égalité elle est fausse. Par suite, cette proposition est aussi fausse.
Dans cet exercice, il faut compléter les expressions par le symbole approprié. Alors pour la première expression, on sait bien que si x égale 2, alors x carré égale 4. Donc on a ça. Par contre, est-ce qu'on peut mettre la flèche dans l'autre sens? La réponse est non. Si x carré égale 4, ça ne veut pas dire que x égale 2. Donc là, il faut donner un contre-exemple. Si on prend x égale moins 2, on sait bien que x carré égale 4, mais x n'est pas égal à 2. D'accord? Donc l'implication directe est fausse.
5 fois 7 égale à 35. Mais ce produit, elle est bien sûr égal à 35. Donc cette égalité, elle est vraie. Par suite, cette proposition est aussi vraie.
Deuxième expression. On part de z égale z bar. Alors en écrivant z sous la forme x plus y, il est assez facile de voir que z est un nombre réel. Donc on a bien cette implication directe. Mais réciproquement, si on part d'un nombre réel, alors il est égal à son conjugué. Donc on a le sens réciproque. Donc ici, en fait, on a bien une équivalence.
Cette phrase, Marrakech est la capitale du Maroc, on sait que la capitale du Maroc est Rabat. Par suite, Marrakech est la capitale du Maroc, elle est fausse.
Pour la troisième expression, on sait que si x égale pi, alors à ce moment-là, exponentielle 2ix, ça fait exponentielle 2ipi, ça fait bien 1. Par contre, la réciproque est fausse. On peut avoir exponentielle 2ix égale 1, mais avec x différent de pi. Donc là, il faut encore une fois donner un contre-exemple. Pour x égale 0, on a bien exponentielle 2i0 qui est égal à 1, et bien sûr, 0 n'est pas égal à pi.
La dernière proposition, 27 est un entier impair, puisque 27, ici, on voit que j'ai un chiffre impair, donc 27 est un entier impair, donc cette proposition est aussi vraie.
Quelle couleur peut aussi se manger? L'orange.
Vous voilà prisonnier d'une pièce avec deux portes. Une porte ouvre sur l'enfer, l'autre sur le paradis, et à chacune de ces portes, il y a un gardien. Un de ces gardiens dit toujours la vérité et l'autre ment toujours. Vous avez droit à une seule question. Quelle question allez-vous poser? Une seule à un seul gardien. Quelle question allez-vous poser pour trouver la bonne porte?
Par exemple, au restaurant, dans la phrase fromage ou dessert, il s'agit soit du fromage, soit du dessert, mais pas des deux. Par contre, si dans un jeu de cartes, on cherche un as ou un cœur, alors il ne faut pas exclure l'as de cœur.
La solution de l'énigme des deux portes consiste à demander à l'un quelconque des gardiens, si je demande à votre collègue de me désigner la bonne porte, quelle sera sa réponse? Vous introduisez ainsi dans la réponse que vous obtenez nécessairement un facteur d'erreur, de fausseté, de contre-vérité, soit parce que c'est le gardien auquel vous parlez qui ment, soit parce qu'il vous lui demandait de rapporter les paroles de son collègue qui ment. Si on s'en tient à plus et moins, c'est moins par plus égale moins, et plus par moins égale moins. Vous savez que quel que soit le gardien, la réponse que vous aurez sera la fausse et qu'il faudra vous diriger vers l'autre porte.
Tu es mon frère, mais je ne suis pas ton frère. Qui suis-je ? La sœur.
Est-ce qu'une augmentation de 20% puis de 30% est plus intéressante qu'une augmentation de 50%.
En changeant une roue, un automobiliste fait tomber par accident les quatre vis dans une bouche d'égout. Il a tout essayé pour les récupérer, mais en vain. Notre homme commence à croire qu'il va devoir passer beaucoup de temps au bord de la route, lorsqu'un garçon apparaît et l'aide à résoudre son problème. En suivant ses conseils, l'automobiliste réussit à fixer sa roue de secours et à conduire sans encombre jusqu'à la station-service la plus proche. Quel a été le conseil du garçon?
La définition de la négation. La négation de la proposition P, c'est la proposition qui est quoi? Qui est vraie? Quand? Quand est-ce que la négation elle est vraie? Si P est fausse. Quand est-ce que la négation est fausse? Si P est vraie et elle est notée non P. Donc on note la négation de P par non P.
Le garçon a conseillé à l'homme d'enlever une vis de chacune des trois autres roues de sa voiture et de les utiliser pour fixer la quatrième.
Si je prends la proposition P, telle que 3 supérieur ou égal à moins 7, Bien, cette proposition, elle est vraie, parce que 3, bien sûr, il est supérieur à moins 7. C'est quoi la négation de P? La négation de P, c'est la proposition définie par 3 inférieur strictement à moins 7, et on sait bien sûr que 3 inférieur à moins 7, elle est fausse. Et on voit que la négation ici, elle est fausse, du fait que P, elle est vraie. Si je prends P, la proposition 3 moins 15 égale à moins 2, on voit que cette égalité, elle est fausse, parce que 3 moins 15 égale à moins 12. Donc, cette proposition, elle est fausse. Sa négation, c'est quoi? La négation, c'est 3 moins 15 différent de moins 2 qui est vrai. Donc, on voit que la négation de P, elle est vraie. Pourquoi? Parce que la proposition P, elle est...
Si je dis, tous les falafels sont frits, et ensuite, cette boulette est un falafel, eh bien, je peux dire, donc, cette boulette est frite. Boulette implique falafel, et falafel implique ses frits. Donc, boulette frite. Ça, c'est donc un syllogisme. C'est une déduction correcte en logique.
Vous dites, par exemple, je souhaite un garçon brun et avec les yeux verts. Le calcul de proposition va vous permettre d'éliminer tous les cas où un des deux éléments n'est pas là, puisque vous voulez les deux. Et ce calcul qui ne prend en compte que deux valeurs, le vrai et le faux, c'est ce qui a donné naissance à l'informatique. L'informatique n'a que deux valeurs, le 1 et le 0, le vrai et le faux. Et c'est bien ce qui se passe lorsque vous demandez à trouver un garçon brun et aux yeux verts sur votre ordinateur dans un site de rencontre. L'informatique va arriver à éliminer tous ceux qui ne correspondent pas à ces deux critères, c'est-à-dire qui ont un élément qui ne fonctionne pas.
Une autre déduction logique pourrait être de dire « ce truc n'est pas frit ». Donc, ce n'est pas un falafel. Si c'est un falafel, forcément, c'est frit. C'est notre première prémisse, je vous rappelle. Suivez un petit peu. Donc, non frit implique non falafel. Et là, effectivement, c'est une tomate crue.
Il était une fois un prince charmant qui chevauchait par mont et par vaux en quête de sa bien-aimée. L'été touchait à sa fin lorsqu'il tomba sur une cabane habitée par une vieille sorcière. Notre voyageur fatigué lui demanda si elle pouvait l'héberger pour la nuit. La sorcière accepta et accueillit chaleureusement son hôte en lui offrant à manger, à boire et un endroit pour dormir. Le lendemain matin, comme le prince charmant se préparait à poursuivre son voyage, la sorcière lui offrit un cadeau en déclarant « Un jour, ton chemin sera bloqué par une large rivière sans pont. La seule façon de traverser sera de nager vers l'autre rive. Cette tunique enchantée t'y aidera. Elle te permettra de ne pas te noyer. » Notre héros poursuivit son voyage. Au bout de 100 jours et 100 nuits, il tomba sur la rivière dont la sorcière lui avait parlé. Mais finalement, il n'eut pas besoin de mettre la tunique pour la traverser. Peux-tu deviner pourquoi?
Tous les falafels sont frits, et ce truc est frit. Je ne peux pas pour autant dire ce truc est un falafel. Là par exemple, ce truc c'est un beignet. Bon, j'ai falafel implique c'est frit, beignet implique c'est frit, mais donc j'ai rien qui implique que c'est un falafel. Et si je le dis, je fais une erreur de raisonnement, qu'on appelle le sophisme de l'affirmation du conséquent.
Le prince charmant a croisé la sorcière à la fin de l'été. Lorsqu'il a atteint la rivière, 100 jours plus tard, c'était donc le cœur de l'hiver, si bien que la rivière était gelée. Il s'est donc contenté de marcher jusqu'à l'autre rive.
On veut montrer que cette proposition, elle est vraie, par l'absurde. On va essayer de déterminer sa négation... la négation de P, et on va supposer que c'est la négation qui est vraie, et trouver une contradiction.
Une autre erreur possible, ce serait, bon, tous les falafels sont frits, ce truc n'est pas un falafel, donc ce truc n'est pas frit. Ben évidemment que si, ce truc c'est un beignet. Et bon, il n'y a plus de surprise, vous l'avez déjà vu, vous saviez. Et donc c'est pas un falafel, mais il est frit. La conclusion « il n'est pas frit » ne découle pas de mes prémices, et ce serait une erreur, dite cette fois-ci, de négation de l'antécédent.
Il pleut, je suis plus grand que toi, qui peuvent être vraies ou fausses selon la situation.
Donc on a A supérieur à racine de C, et B est supérieur ou égal à racine de C. Ceci implique du fait que A et B et racine de C sont positifs, donc je peux multiplier A et B, A fois B est supérieur à racine fois la racine, c'est la racine de C au carré. Ceci implique que A fois B est supérieur à racine de C carré c'est C. Donc ici, on a trouvé une contradiction, c'est-à-dire ici, on a trouvé un absurde du fait que bien sûr, on a trouvé AB supérieur ou égal à C, et on a donc l'énoncé AB inférieur strictement à C. Ça veut dire que la proposition P, c'est celle qui est vraie. Donc, A est inférieur à racine de C, et B est inférieur à racine de C.
Mais aussi, 2 plus 2 égale 4, qui est une assertion vraie, alors que 2 fois 3 égale 7 est une assertion fausse. On complique les choses avec, pour tout x réel, on a x carré positif, qui est une phrase vraie. Alors que pour tout z complexe, on a module de z égale 1, est une assertion fausse, car ce n'est pas vrai pour tous les nombres complexes.
Premier exemple, 5 plus 4 égale 8. Cet énoncé est faux. Deuxième exemple, 19 égale 9 plus 10. Cette fois-ci, l'énoncé est vrai. Troisième exemple, 4 plus 8. Eh bien, cette fois-ci, ce n'est pas une assertion. En effet, on ne peut pas dire que 4 plus 8 est vrai ou est faux.
Il est impossible de prouver définitivement qu'une théorie est vraie. Tout ce qu'on peut faire, c'est prouver qu'elle est fausse, avec un raisonnement déductif. C'est quand on part d'une théorie, et qu'on en déduit quel devrait être le résultat de l'expérience. Ça, c'est assez définitif, car si les résultats de l'expérience ne correspondent pas, ça infirme la théorie. Prouver que la théorie est fausse, c'est imparable, il faut la modifier ou la mettre à la poubelle.
Un fermier garde ses lapins dans trois grands clapiers alignés au fond de son jardin. Chaque clapier est peint dans une couleur distincte, rouge, jaune et vert. Jusqu'à récemment, le nombre de lapins dans le clapier vert était deux fois plus élevé que dans le clapier jaune. Puis, un jour, le fermier a pris 5 lapins du clapier de gauche et les a donnés à l'école du village. Il a aussi pris la moitié des lapins qui restaient dans ce même clapier et les a placés dans le clapier rouge. Peux-tu deviner la couleur du clapier de gauche ?
Mais comment faire pour prouver que la théorie est vraie ? C'est impossible. On peut seulement faire un raisonnement inductif. C'est quand on fait des expériences et qu'on remarque des régularités. Alors on peut suggérer une théorie, parce que ça a l'air de marcher à chaque fois. Mais on ne peut pas prouver de façon définitive qu'elle sera vraie tout le temps. Au mieux, on peut seulement échouer suffisamment longtemps à essayer de prouver qu'elle est fausse.
Le clapier de gauche est jaune. Nous savons qu'au départ, le nombre de lapins dans le clapier vert est deux fois plus élevé que dans le clapier jaune. Ce qui signifie que le nombre de lapins dans le clapier vert est pair. Après que le fermier ait retiré 5 lapins du clapier de gauche, le nombre de lapins qu'il contient est également pair, puisqu'il est divisible par 2. Par conséquent, avant que ces 5 lapins soient retirés, le clapier gauche contenait un nombre impair de lapins. Donc, ça ne peut pas être le vert, et ça ne peut pas être non plus le clapier rouge, puisque c'est là qu'il a déplacé les 5 lapins.
Le traité dans lequel Aristote expose les règles de la logique s'appelle l'Organon. D'ailleurs, pour être tout à fait précis, l'Organon, ce n'est pas un traité, c'est une compilation de 6 traités. Les catégories, l'interprétation, les premiers et seconds analytiques, les topiques et les réfutations sophistiques. Et pourquoi on les appelle Organon ? Parce qu'Organon, ça signifie « instrument » en grec. C'est l'instrument de la pensée. C'est la base de la pensée. Et c'est même tellement la base que quand Aristote nous explique les premiers principes de la logique, on a l'impression d'avoir affaire à des évidences.
J'ai des cartes sur lesquelles il y a d'un côté un chiffre et de l'autre côté une lettre. Et elles doivent respecter une règle. Si une carte présente un N, sur l'autre face, il doit y avoir le chiffre 1. Et maintenant, je vous présente 4 cartes. Les voici, 1, N, T, 4. Vous allez devoir me dire quelles sont les cartes que je dois retourner si je veux vérifier que ma règle est bien respectée. Je dois en retourner le moins possible. Je cherche à vérifier si cette règle est bien respectée. Donc, j'ai intérêt à trouver les cas où elle risque de ne pas être respectée. Et pour ça, il me suffit de retourner deux cartes. D'abord, évidemment, le N, parce qu'en le retournant, je vérifie si j'ai bien un 1, et si j'en ai pas, ben, par exemple ici j'ai un 7, je trouve donc un cas où la règle n'est pas respectée. Et ensuite, je dois retourner le 4. Pourquoi ? Parce que si en retournant le 4, je trouve un N, ça me permet de découvrir un cas où la règle n'est pas respectée.
Imaginons que le paquet de cartes représente le monde dans lequel on vit. L'univers, la matière, tout ce qui nous entoure. On se demande si sa composition suit des règles, les lois de la nature. On finit par proposer des hypothèses à propos de ces régularités. Ce sont les théories scientifiques. Pour vérifier ces théories, on peut faire des expériences, mettre la nature à l'épreuve. Ici, c'est retourner une carte.
Le terme logique vient du mot grec logiké, un terme dérivé de logos, qui signifie notamment le discours, la raison et le langage. Il s'agit là d'un mot que chacun de nous utilise dans le langage courant, et selon les contextes, le terme peut désigner quelque chose qui nous semble évident, cohérent, clair ou en accord avec le bon sens.
Les enfants vont pouvoir apprendre la logique en fait, de la programmation avec différents éléments qui vont correspondre à des déplacements du robot. Donc, par exemple, avancer, tourner, avoir des émotions. Et là, ils vont manipuler des principes de logique, de code, de programme informatique.
Ce sont des jeux de logique qui font appel à la manipulation, un peu au calcul, à la vision des gamins. Et c'est la première fois que je fais ça et c'est intéressant parce que les gamins se prennent au jeu, finalement ça reste un jeu.
En philosophie, la signification que l'on donnera à la logique n'est pas radicalement différente. Disons qu'elle est simplement plus précise. Dans sa conception classique, on désignera sous le nom de logique la science qui a pour objet de déterminer les règles formelles du raisonnement et de l'argumentation correcte, ou, pour le dire en d'autres termes, la discipline philosophique qui nous fournit les critères nous permettant de proposer des réflexions et des argumentations en accord avec la raison.
Il y a les maniements de couleurs qui sont vraiment la bête noire du bridgeur. Vous avez le mort en face de vous et votre jeu. Et là, comment faut-il aller chercher une dame qui se trouve quatrième, un valet cinquième, un neuf, etc. Bon, là, tout est expliqué.
Qu'est-ce qu'une évidence ? C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être démontré pour être admis comme vrai. C'est quelque chose qui ne peut même pas être démontré, puisque par définition, une démonstration s'appuie sur des propositions qui précèdent la conclusion. Or, rien ne précède l'évidence. Une évidence, c'est ce qui ne s'appuie sur rien d'autre que sur soi-même.
Le bridgeur est une personne qui pense qu'il joue toujours mieux que les autres, ça c'est certain, mais si on peut faire des progrès.
Si personne ne parvient à prouver que la théorie est fausse, alors on peut commencer à être satisfait de notre théorie. Ça, c'est un truc avec lequel le cerveau humain a beaucoup de mal. Nous, d'instinct, on veut toujours chercher à confirmer les trucs. C'était probablement un avantage évolutif pour nos ancêtres de faire comme ça, mais aujourd'hui, c'est pénible. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation.
Alors il y a un seul objectif, c'est de relier une des 8 cases centrales orange à une case d'angle, à une des cases d'angle. Voilà, donc chacun essaye de faire son chemin, de sa couleur. On pose les pions, les uns à côté des autres, et il y a quand même une seule règle. La règle du pas plus de 4, votre pion ne peut pas être entouré, on l'enlève du plateau. C'est la seule règle.
À partir d'une assertion P et d'une assertion Q, on définit maintenant l'assertion P et Q. L'assertion P et Q est vraie si P est vrai et Q est vrai. L'assertion P et Q est fausse sinon. Une autre façon de définir l'assertion P et Q est de dire si cette assertion est vraie ou fausse en fonction de P et Q. C'est la table de vérité de P et Q. Si P est vrai et Q est vrai, alors P et Q est vrai. Si P est vrai et Q est fausse, alors P et Q est fausse.
Pour l'instant, il n'y a pas de stratégie gagnante, mais il y a des centaines de milliards de possibilités de parties. Les ordinateurs aujourd'hui, tels qu'ils utilisent les programmes informatiques pour jouer à la BAC, sont à partir du dixième coup, ils sont complètement inhibés, ils arrêtent parce qu'ils ne peuvent plus calculer toutes les positions possibles pour avoir quelque chose de gagnant.
Les mathématiques sur le mode ludique, la finale du 10e championnat international des jeux de logique se déroule en ce moment même à la Défense.
On veut montrer que, quel que soit n un entier naturel non nul, la racine de n carré plus n n'appartenant pas à n. Donc, par l'absurde, on suppose que il existe un entier naturel non nul tel que la racine de n carré plus n appartenant à n. Qu'est-ce que ça veut dire la racine de n carré plus n appartenant à n? Ceci équivalent à dire qu'il existe A qui est un entier naturel, et je peux l'écrire ici non nul, qui vérifie que racine de n carré plus n égale à A.
L'informatique a dû le conduire à la logique. En fait, la programmation, c'est parfaitement logique.
À la différence des autres sciences qui augmentent notre connaissance, la logique, elle, ne nous apprend rien sur le monde. Son utilité est ailleurs. Elle est simplement l'instrument de la rectitude de la pensée et de la cohérence de nos propos.
On peut imaginer que la Terre est bleue comme une orange, comme l'écrivait Éluard. C'est ce qui fait d'ailleurs que les élèves de terminale détestent autant travailler sur la poésie. Ce genre littéraire où tous les illogismes sont permis. Parce que la poésie n'est pas le lieu de la logique, elle est le lieu de l'imagination. Bien justement, le principe d'identité, c'est ce qui verrouille l'imagination. C'est ce qui met un stop à l'imagination.
Quelle est la valeur de F eu égard aux valeurs de A, B, C, D et E? Il faut trouver la logique qui lie ces nombres entre eux.
La réciproque de l'implication P implique Q, c'est la proposition Q implique P. Donc on inverse les termes. Attention, en général, la réciproque n'a pas la même table de vérité que P implique Q. P implique Q vrai n'entraîne pas obligatoirement Q implique P vrai.
Le nombre que l'on cherche est 95 parce qu'on passe à chaque fois d'un nombre au suivant en multipliant par 2 et en ajoutant 1. 2 fois 2 égale 4, plus 1, 5. 5 fois 2 égale 10, plus 1, 11, etc.
Pourquoi t'as mis rose?
Eh, si tu veux savoir, c'est moi qui ai rose.
Ah oui, je sais que c'est toi, petit con.
Mais pourquoi tu m'insultes?
Bon, j'avoue que j'avais rose entouré, moi aussi.
Ah ouais?
J'avoue que j'avais rose.
Ah ouais, rose, il vous l'a donné, mais moi je savais pas qu'il l'avait.
Bah en fait, moi.
Mais les gars, c'est logique.
Moi, il me l'a pas donné, rose.
Hein. J'avais rose, mais vous écoutez pas.
Mais si, gros, il l'a donné depuis le début. Hein.
Bah non, moi je l'avais pas. J'ai mis un point d'interrogation en fait sur le MeToo.
Moi j'ai un point d'interrogation sur rose.
Ouais, bah pareil.
Sur le bleu, et tout le reste c'est des croix.
Mais là, du coup, moi.
Mais n'empêche qu'à l'intérieur d'un même référentiel, par exemple, le référentiel jambe, vous ne pouvez pas être à la fois en train de faire quelque chose et son contraire. D'ailleurs, si le moonwalk de Michael Jackson est un pas si impressionnant, c'est justement parce qu'il repose sur l'illusion de deux mouvements contradictoires simultanés.
De même, si P est fausse et Q est vrai, alors P et Q est fausse. Enfin, si P est fausse et Q est fausse, alors P et Q est fausse. Par exemple, si P est l'assertion « cette carte est un as » et Q l'assertion « cette carte est un cœur », l'assertion P et Q sera vraie si la carte est l'as de cœur. Et pour toutes les autres cartes, l'assertion P et Q est fausse.
X fois X, X carré. Ensuite, on se pose la question, qui fois qui me redonne 12? En fait, il y a deux possibilités. Il y a 3 fois 4, il y a 6 fois 2, pardon, il y a 3 possibilités, mais encore 12 fois 1. Mais également leurs opposés, parce que moins 3 fois moins 4, ça me redonnerait également plus 12. Maintenant, il faut réfléchir. La somme des deux nombres qui vont être ici doit me donner moins 7. Tu vois. Leur produit me donne 12, les candidats, et leur somme me donne moins 7. Et si tu additionnes deux personnes et tu arrives à moins 7, bah forcément, c'est qu'ils sont négatifs. Tu vois. Donc, les candidats, ils sont négatifs. Bah, quand tu additionnes qui, tu arrives à moins 7, et bah, c'est 2. Donc, c'est x moins 3 et x plus 4.
Quel que soit n, un entier naturel non nul, la racine de n carré plus n n'appartenant pas à l'ensemble n. Bien sûr, on veut montrer qu'il n'appartient pas à n. On a supposé qu'il appartient à n. On a trouvé une contradiction du fait que A est un entier naturel compris entre deux entiers naturels consécutifs. Ça veut dire que pour tout n, un entier naturel non nul, la racine de n carré plus n n'appartenant pas à n.
Ok, actuellement j'ai une chance sur 8.
Bah, t'avais pas une chance sur 6 le tour d'avant?
Non. Là, j'ai calculé de manière mathématique.
Oh, toi, t'es un mathématicien, toi.
Oui.
Eh, hey, t'es mathématique et pas mathématicien.
Oh.
Ça, on l'a fait toute ma vie, cette blague.
C'est vrai?
Ah bah, mathématiste, frère.
Un soir, à une heure tardive, une voiture renverse un piéton dans une ruelle étroite et s'en va sans s'arrêter. un policier qui a vu la voiture partir, déclare l'avoir vu rouler à une grande vitesse. L'accident a été vu par 6 témoins. Ils fournissent les informations contradictoires suivantes. La voiture était bleue et elle était conduite par un homme. La voiture roulait très vite et ses phares étaient éteints. La voiture avait une plaque d'immatriculation et elle n'allait pas très vite. C'était une Toyota et ses phares étaient éteints. La voiture n'avait pas de plaque d'immatriculation et elle était conduite par une femme. C'était une Ford grise. Lorsque la voiture et son conducteur se sont finalement arrêtés, il s'avère qu'un seul des 6 témoins ait donné une description totalement vraie. Tous les autres ont donné une information correcte et une incorrecte. Sachant cela, peux-tu répondre aux questions suivantes? Quelle est la marque de la voiture? Quelle est la couleur de la voiture? La voiture roulait-elle vite ou lentement? Avait-elle une plaque d'immatriculation? Avait-elle ses phares allumés? Le conducteur était-il un homme ou une femme?
Un algorigramme ou logigramme est la représentation graphique d'un algorithme. L'algorithme est une suite d'instructions précises qui décrit la manière dont on résout un problème. Nous allons utiliser 3 symboles principaux. Pour le début ou la fin, il faudra le mettre dans une ellipse. Les actions ou instructions seront dans un rectangle. Il s'agit en général d'un verbe à l'infinitif. Une question ou un événement, ce sera dans un losange. 2 réponses sont alors possibles, oui ou non. Dans cet exemple, il s'agit de l'ouverture d'une porte lorsque l'on détecte la présence d'une personne. Si il y a quelqu'un, à la réponse oui, il y a ouvrir la porte. S'il y a personne, la réponse est non et il y a fermer la porte.
Que serait donc la chambre et l'assassin, le docteur Olive?
La solution de cette énigme est donnée par l'information fournie par le policier. Le fait que la voiture roulait vite, en considérant que cette information est vraie, on en déduit que la deuxième partie du troisième témoignage est fausse, et donc que c'est la première partie de ce même témoignage qui est vraie. En procédant de la même façon, on peut déterminer les parties incorrectes et correctes de chaque témoignage. On en conclut que la voiture était une Ford bleue, qu'elle avait bien une plaque d'immatriculation, qu'elle roulait vite, que ses phares étaient éteints, et enfin que son conducteur était une femme.
La piscine, l'instrument, enfin l'arme du crime, foulard, et l'assassin, le docteur Olive.
Est-ce que ça veut dire que ma phrase « Paul est plus grand que Pierre » est vraie? Vous allez me dire, bah oui, on vient de le prouver. Et je vous répondrai, bah non, on ne vient pas de le prouver. Tout ce qu'on vient de prouver, c'est que c'était la seule conclusion qu'il était possible de tirer à partir des 2 propositions précédentes. Donc qu'on soit bien clair, je ne suis pas en train de dire que ma conclusion est fausse, je suis en train de dire qu'on ne peut pas affirmer qu'elle est vraie. Pourquoi ? Parce que, pour affirmer qu'elle est vraie, il faudrait savoir si Paul est effectivement plus grand que Jacques, et si Jacques est effectivement plus grand que Pierre.
Une assertion peut dépendre d'une variable x. Par exemple, si on note P de x l'assertion x carré plus grand que 1, alors selon les valeurs de x, P de x est soit vraie, soit fausse. L'assertion « pour tout x appartenant à E, on a P de x » est vraie lorsque les assertions P de x sont vraies pour tous les x appartenant à l'ensemble E.
Piscine, docteur Olive et au milieu revolver.
Et après, comme on a vu cet indice avec les taches, on a cru que c'était des taches de sang, et on a pensé que c'était donc le docteur Olive qui aurait laissé le foulard, mais qui aurait tué avec le revolver, mais pour accuser Mademoiselle Rose.
Donc l'implication, hein, ça remplace le donc français. Donc je voudrais juste citer une citation d'Aristote sur les syllogismes. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Donc c'est quelque chose de bien connu. Et il y a aussi une citation amusante de Ionesco qui parodie ça. Tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat.
La question à laquelle nous aboutissons, c'est que effectivement, il est nécessaire d'avoir un raisonnement juste, correct, pour aboutir à quelque chose qu'on peut prétendre vrai. Mais est-ce qu'il suffit d'avoir un raisonnement logique, qui respecte toutes les règles de la logique, pour être assuré que la conclusion à laquelle nous aboutissons est une vérité? Et sous cette question, est-ce qu'il est possible de mettre sous forme mathématique et le monde, la réalité, et nos opérations mentales?